Bonjour et bienvenue sur RFI si vous nous rejoignez. Il est tout juste 16h à Paris.
Olivier Sherman.
Un blocus total sur la bande de Gaza imposé par Israël depuis 2 mois. Les Palestiniens dans l'enclave vivent une situation dramatique. Au même moment, un bateau chargé d'aide humanitaire attaqué par des drones israéliens au large de Malte. Le parti alternatif pour l'Allemagne, l'AFD, classé extrémiste de droite par le renseignement intérieur allemand, une décision qui relance le débat sur son éventuelle interdiction à quelques jours de l'investiture de Friedrich Merz comme chancelier. Attaque de prison en France, 21 suspects présentés à la justice, la piste des narcotrafiquants confirmée. Enfin, les navires circulant en mer Méditerranée doivent désormais fortement réduire le soufre qu'ils émettent. Le but, améliorer la qualité de l'air, préserver l'environnement et protéger la santé humaine. Le fioul lourd des navires devra être remplacé par des carburants plus propres. La défense civile de la bande de Gaza fait état de 29 personnes tuées dans de nouvelles frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Et cela fait aujourd'hui 2 mois que les entrées d'aide humanitaire dans la bande de Gaza sont complètement bloquées par Israël. Selon le comité international de la Croix-Rouge, la situation sur place est au bord de l'effondrement. Lila Olkinora, c'est la plus longue période de blocage depuis le début de la guerre.
Médicaments, nourriture, carburant, depuis le 2 mars 2025, plus rien ne rentre à Gaza. Les autorités israéliennes ont imposé ce blocus pour forcer, disent-elles, le Hamas à libérer les derniers otages du 7 octobre. Alors quelles sont les conséquences de cette fermeture qui se prolonge? Le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, a annoncé avoir épuisé tous ses stocks de nourriture. Les cuisines collectives de la Croix-Rouge, qui fournissent aux Gazaouis ce qui est souvent leur unique repas quotidien, ne pourront pas être maintenues. Et sans réapprovisionnement en médicaments et en carburant qui alimentent les groupes électrogènes, les hôpitaux seront bientôt incapables de prodiguer des soins vitaux, alors que les structures de santé sont déjà affaiblies par les bombardements. Aujourd'hui, les 2 millions d'habitants de la bande de Gaza sont à bout de force. Dans un communiqué, le Comité international de la Croix-Rouge appelle à une action humanitaire urgente, faute de quoi, selon l'organisation, Gaza risque de tomber dans un chaos dont plus rien ne pourra la sortir.
Et puis un bateau chargé d'aide humanitaire appartenant à l'ONG Flottille de la Liberté a été pris pour cible cette nuit au large de Malte. Selon l'organisation, le bateau devait prendre la mer ce matin pour porter assistance aux habitants de Gaza lorsqu'il a été attaqué par des drones. L'ONG accuse Israël qui n'a pour l'instant pas réagi. Israël a bombardé aussi les abords du palais du président à Damas. Ce bombardement par des avions israéliens est un message clair envoyé au régime syrien. Damas est accusé de mener une campagne génocidaire visant des civils de la communauté de Russes qui ont fait plus de 100 morts en Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Nous ne permettrons pas que des forces syriennes menacent de quelque manière que ce soit la communauté de Russes, avertit le Premier ministre Benjamin Netanyahou. La présidence syrienne condamne avec la plus grande fermeté cette frappe israélienne, ajoutant qu'elle constitue une escalade dangereuse contre les institutions de l'État et sa souveraineté. De nouveaux échanges de tirs cette nuit dans la zone frontalière entre l'Inde et le Pakistan, 8e nuit consécutive d'échanges de coups de feu. Dans ce contexte, le Cachemire pakistanais appelle ses habitants à stocker de la nourriture pour 2 mois et d'y renforcer l'approvisionnement des villages dans cette région. Il est de plus en plus difficile pour les journalistes de faire leur travail. Les conditions se dégradent dans le monde entier. C'est ce qui ressort du classement annuel de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. L'ONG qui publie son enquête aujourd'hui déplore une situation préoccupante. Anne Bokande, directrice éditorialiste de RSF.
La liberté de la presse, en effet, se dégrade. Pour la première fois en 10 ans, on note que la situation moyenne passe en situation difficile. Donc, en effet, c'est un constat, en effet, un signe d'inquiétude pour nous, évidemment. Concrètement, les conditions d'exercice du métier de journaliste sont mauvaises dans la moitié des pays du monde aujourd'hui et moins de 1%, on est à 0,7% de la population mondiale vit dans un pays où la liberté de la presse est pleinement garantie. Autre indicateur cette année, toutes les zones, ça concerne toutes les zones, les scores moyens baissent dans l'ensemble des zones du monde entier. Donc en effet, facteur d'inquiétude pour une organisation comme Reporters sans frontières et puis plus globalement pour le droit à l'information du public à international.
Anne Bokande, directrice éditoriale de RSF, au micro de Sophie Malibaud. Pour plus de détails, la totalité de l'entretien est à retrouver ce soir à 17h30 en temps universel dans Les Dessous de l'Infox. Le renseignement intérieur allemand a classé ce matin le parti alternatif pour l'Allemagne comme un mouvement extrémiste de droite. En principe, l'AfD peut désormais être placée sous surveillance. Le pas franchi ce matin par les renseignements intérieurs pourrait avoir des conséquences majeures sur la vie politique allemande à quelques jours de la prestation de serment de Friedrich Merz. À Berlin, les explications de Nathalie Versieux.
L'idéologie de l'AfD dévalorise des groupes entiers de la population allemande et porte atteinte à leur dignité humaine, a tranché ce matin l'Office de protection de la Constitution. La conception du peuple basée sur l'ethnicité qui prédomine au sein du parti n'est pas compatible avec l'ordre démocratique libre, fin de citation. Concrètement, l'Office pourra désormais surveiller jusqu'aux communications privées des membres de l'AfD, un coup dur pour le parti arrivé second aux élections avec plus de 20% des voix. Le premier parti d'opposition revendiquait des postes d'influence au sein des commissions parlementaires du Bundestag. Il sera plus aisé encore au parti traditionnel de les lui refuser. Surtout, la décision des renseignements intérieurs est une étape indispensable vers la voie d'une interdiction de l'AfD qui faisait débat en Allemagne depuis des années. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
En France, dans l'affaire de la série d'attaques qui a touché les prisons ces 20 derniers jours, la justice confirme la piste des narcotrafiquants. Le parquet national antiterroriste qui s'était saisi de plusieurs de ces attaques exécutées par un groupe jusque-là inconnu, baptisé DDPF, pour défense des prisonniers français, annonce dessaisir au profit de la Junalco, la juridiction nationale de lutte contre la criminalité. Dans ce cadre, 21 personnes, dont 7 déjà détenues et 2 mineurs, doivent être déférées dans la journée devant un juge d'instruction en vue de leur mise en examen. Laura Martel.
L'enquête a vite progressé dans cette affaire qui porte sur 15 actes de dégradation et d'action violente contre des prisons ainsi que contre les domiciles et véhicules d'agents pénitentiaires commis un peu partout sur le territoire. Des actions coordonnées qui ne procèdent pas d'une entreprise terroriste, souligne donc le parquet, mais bien de la très grande criminalité organisée. Le mode opératoire correspond d'ailleurs à celui habituellement employé par les organisations criminelles, pointe-t-il, avec un mot d'ordre d'action donné par l'instigateur du mouvement DDPF sur une chaîne Telegram, puis diverses offres d'action relayées sur les réseaux sociaux pour recruter des exécutants qui passent à l'acte contre une rémunération significative. Parmi les 21 personnes qui doivent être présentées devant un juge d'instruction spécialisé figure d'ailleurs un homme soupçonné d'être le créateur du premier compte Telegram intitulé DDPF et qui aurait rédigé le texte de revendication contre les conditions carcérales. Cet individu, actuellement détenu, est déjà mis en examen pour des faits liés au narco-banditisme marseillais et notamment proche du gang des Z-Mafia. 3 autres mises en cause, également détenus et inscrits dans la grande criminalité, auraient joué un rôle de relais et de donneur d'ordre selon les enquêteurs, en désignant des cibles manifestement choisies parmi les agents et établissements pénitentiaires de leur connaissance. Pour l'ensemble des mises en cause, le placement en détention provisoire a été requis.
Les bateaux qui circulent en mer Méditerranée doivent désormais fortement réduire leur émission de soufre. La mesure adoptée en 2022 par l'Organisation Maritime Internationale est soutenue par l'intégralité des pays qui bordent la Méditerranée est entrée en vigueur depuis hier. Il s'agit d'une mesure de santé publique qui va nécessiter quelques adaptations. Les précisions de Pauline Glaise.
Les navires devront changer de carburant, remplacer le fioul lourd par des produits plus proches de ceux qui existent pour le trafic routier ou par des mélanges avec des biocarburants. Ces alternatives sont généralement plus chères, mais cela devrait permettre de réduire les émissions. La teneur maximale en soufre est désormais limitée à 0,1% contre 0,5% auparavant. Et si ces réductions sont imposées aux armateurs, c'est parce que l'oxyde de soufre est mauvais pour la santé. Objectif donc, réduire les taux de cancer du poumon, de maladies cardiovasculaires ou encore d'accidents vasculaires cérébraux. Au total, selon le gouvernement français, cela permettrait d'éviter plus de 1700 morts prématurées chaque année sur l'ensemble du bassin méditerranéen. L'Organisation Maritime Internationale espère aussi éviter plus de 2000 cas d'asthme infantile par an. Ce n'est pas la première zone de contrôle des émissions dans le monde, il en existe 4 autres. Cela reste un pas important car plus de 24% de la flotte mondiale navigue en Méditerranée.
Et puis un bateau qui ne sera pas touché par ces mesures, c'est le plus grand navire électrique du monde. Il a été mis à l'eau en Australie, un mastodonte de 130 mètres capable de transporter plus de 2000 passagers et 225 véhicules. Vous êtes bien à l'écoute de RFI, il est tout juste 16h10 à Paris. Passez une excellente fin de journée.